Laudetur Jesus Christus.
Le pape exhorte à ne pas orienter toutes les relations de travail vers la seule logique du profit. Le Saint-Père s'est adressé hier aux participants à la réunion plénière de la Conférence internationale du travail, constatant des pertes d'emplois sans précédent en 2020 et une augmentation de la pauvreté. Il s'inquiète d'une relance post-Covid orientée vers un consumérisme aveugle. Éclairage juste après les titres. Nous nous rendrons ensuite en Côte d'Ivoire où était de retour hier Laurent Gbagbo après 10 ans d'absence. L'ancien président ivoirien, définitivement acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, s'est dit heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Au sommaire également, l'élection présidentielle en Iran. Les électeurs ont pris ce matin le chemin des urnes pour désigner un successeur au président sortant, Hassan Rouhani. Le grand favori est l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, chef de l'autorité judiciaire, mais le grand vainqueur de ce scrutin pourrait être le taux d'abstention. Dans notre dossier, retour sur la rencontre entre les présidents américains et russes, Joe Biden et Vladimir Poutine, se sont rencontrés mercredi à Genève, affichant une volonté d'apaisement dans leurs relations. Mais les sujets de discorde demeurent intacts. Analyse à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, le pape craint une relance post-Covid orientée vers un consumérisme aveugle. Dans un message vidéo adressé hier aux participants à la 109e réunion plénière de la Conférence internationale du travail qui s'est tenue à Genève, le pape François a délivré un ferme rappel des principes de la doctrine sociale de l'Église, invitant à ne pas orienter toutes les relations de travail vers la seule logique du profit. Les précisions de Cyprien Viette.
Comme l'actualité le démontre chaque jour, la pandémie de coronavirus et les confinements ont provoqué de nombreux phénomènes inquiétants. Augmentation de la pauvreté, du chômage, du sous-emploi, retard dans l'insertion des jeunes sur le marché du travail, exploitation des enfants ou encore trafic d'êtres humains. Dans le monde entier, nous avons assisté à des pertes d'emplois sans précédent en 2020, constate le pape François. Les signaux encourageants enregistrés ces dernières semaines pour une sortie de la pandémie ne doivent pas pousser les décideurs à reproduire les mêmes schémas qu'auparavant, orientés vers une relance de court terme sans réfléchir aux externalités négatives sur le long terme. Dans la hâte de retrouver une plus grande activité économique à la fin du Covid-19, évitons les lourdes fixations sur le profit, le consumérisme aveugle et le déni des preuves claires qui dénotent une discrimination à l'égard de nos frères et sœurs éliminable dans notre société, demande le pape avec fermeté. François appelle à renforcer les systèmes de protection sociale et à garantir le respect des droits fondamentaux des travailleurs, y compris le droit de se syndiquer. Il appelle à une réforme profonde de l'économie et à construire un nouvel avenir du travail fondé sur des conditions décentes et dignes issues de la négociation collective et favorisant le bien commun. Pour François, le risque est en effet d'être attaqué par un virus encore pire que le Covid-19, celui de l'indifférence égoïste.
Cyprien Viette. Le Vatican accueillera le 4 octobre prochain une rencontre intitulée « Foi et science » vers la COP26. Elle précédera la conférence sur le climat de Glasgow et réunira des dizaines de chefs religieux et de scientifiques. Plus de précisions à l'adresse vaticannews.va. Laurent Gbagbo a été accueilli par des milliers de partisans à son retour en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. L'ancien président a atterri hier après-midi à l'aéroport d'Abidjan en provenance de Bruxelles. Arrêté en avril 2011 au terme d'une grave crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts, il a été acquitté définitivement par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo s'est exprimé dans la soirée devant ses partisans en liesse. Le reportage à Abidjan d'Amandine Réau.
Des chants, des danses, des cris de joie et des militants qui n'en croient pas leurs yeux. Dès son atterrissage, Laurent Gbagbo a été acclamé depuis le pavillon présidentiel.
Il arrive. Je suis content.
Pas de bain de foule ni de discours en public. L'ancien président s'est contenté de faire un tour dans son 4x4 aux vitres teintées. Il a directement pris la route pour défiler dans de nombreux quartiers d'Abidjan. Sur les boulevards, des milliers de partisans attendaient le cortège depuis des heures pour ce jour historique. Beaucoup ont pourtant été dispersés par des gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. Ce qui n'était pas prévu, regrette Frank Anderson, communicant du FPI, le parti de Laurent Gbagbo.
Ça n'avait pas été prévu dans les discussions. Et personne ne nous a dit, à aucun moment, que les rassemblements aux abords des routes sont interdits. Non. Donc nous marquons notre tellement.
Destination finale du cortège, son QG de campagne de 2010, où l'attendaient des partisans. Dans un discours malheureusement inaudible, il a évoqué les victoires électorales de son parti aux dernières législatives, mais aussi sa mère décédée pendant son incarcération à La Haye. Il s'est surtout dit heureux de retrouver la Côte d'Ivoire. Amandine Réau, Abidjan, Radio Vatican.
Pendant la pandémie, tout s'est arrêté, sauf les conflits et la violence. C'est un constat alarmant que dressent les Nations Unies. Le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre qui a doublé en 10 ans, indique l'ONU, soulignant dans un rapport publié ce vendredi qu'aujourd'hui, 1% de l'humanité est déplacée. En Iran, les bureaux de vote ont ouvert. Près de 60 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Après deux mandats consécutifs, le modéré Hassan Rouhani ne peut se représenter cette année. Un scrutin qui devrait consacrer la victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Mais c'est avant tout l'abstention qui fait figure de grand favori, Marine Oriot.
Oui, elle pourrait atteindre les 57% selon les rares sondages disponibles. Un record pour l'Iran. Alors pourquoi si peu d'enthousiasme pour cette présidence? De nombreuses candidatures ont été invalidées par le Conseil des gardiens. Seul reste des figures conservatrices, estime l'opposition, qui appelle au boycott de ce scrutin. Ajouté à cela une campagne électorale plutôt terne, les Iraniens étant pris dans un marasme économique après le rétablissement des sanctions internationales et également en proie à la pandémie. Le guide suprême, Ali Khamenei, entend pourtant faire de ce scrutin un succès. Il est allé voter parmi les premiers ce matin pour montrer l'exemple, insistant sur l'image du pays sur la scène internationale si la participation est élevée. Le candidat parmi les quatre finalement autorisés qui devrait l'emporter est a priori Ibrahim Raisi, un ultra-conservateur proche du grand ayatollah, une figure de l'Iran, actuellement chef de l'autorité judiciaire. L'opposition et des ONG l'accusent d'être impliqué dans les exécutions massives de prisonniers politiques de 1988. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à minuit, voire 2h du matin, pour un résultat dès demain à la mi-journée.
Merci beaucoup Marine. L'aviation israélienne a de nouveau bombardé la nuit dernière des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, une opération la deuxième cette semaine en représailles à des tirs de ballons incendiaires ayant visé le sud d'Israël. Ces nouveaux échanges de tirs interviennent alors que l'ONU et l'Égypte tentent de consolider le fragile cessez-le-feu ayant mis fin à 11 jours de conflits meurtriers et à l'approche de la visite prévue à partir de demain aux États-Unis du chef de l'armée israélienne. Au Royaume-Uni, des experts mettent en garde contre une possible troisième vague de l'épidémie de Covid-19 au mois d'août. Le nombre des nouvelles contaminations a dépassé hier 11 000 cas, le chiffre le plus élevé depuis la mi-février. En cause, le nouveau variant Delta détecté en Inde, deux fois plus contagieux. Les précisions de Jean Jaffray.
Cette hausse du nombre des nouvelles infections, qui double tous les 11 jours, va entraîner logiquement une augmentation des hospitalisations et des décès, a averti le médecin-chef conseiller du gouvernement, Chris Whitty. Le variant Delta représente maintenant 90% des nouvelles contaminations. Toutes les régions d'Angleterre et du Pays de Galles sont touchées. Le problème est que l'on est bien moins protégé quand on n'a reçu qu'une dose des vaccins Pfizer et AstraZeneca. C'est pourquoi le ministre de la Santé, Matt Hancock, a fixé comme objectif que toute personne âgée de 50 ans et plus ait reçu les deux injections d'ici le 21 juin. Autre sujet d'inquiétude, la plupart des nouveaux cas sont détectés parmi les groupes d'âge de 5 à 12 ans et de 18 à 24 ans. Cette dégradation du tableau de bord de l'épidémie intervient 5 jours après que le Premier ministre a été obligé d'annoncer le report à début juillet de la levée des dernières restrictions imposées pour lutter contre la Covid-19. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
Alors que la campagne de vaccination se poursuit dans les pays riches, 2,5 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, l'urgence sanitaire reste importante dans les régions les plus pauvres. Au Vatican, pour venir en aide aux plus vulnérables, l'aumônerie apostolique a de nouveau fait l'acquisition de respirateurs et d'autres matériels médicaux envoyés aujourd'hui dans plusieurs pays, notamment au Brésil, en Inde, en Colombie, en Syrie ou encore en Afrique du Sud. C'est un camouflet a posteriori pour Donald Trump. La Cour suprême américaine a refusé d'invalider la loi phare de Barack Obama sur l'assurance santé. Des millions d'Américains vont ainsi pouvoir conserver une couverture maladie. Cette décision, très attendue, a été prise à la majorité de 7 juges sur 9, qui n'ont donc pas donné raison à l'ancien président américain, qui a tenté par tous les moyens de supprimer l'Obamacare. La rencontre était très attendue. Les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine se sont retrouvés mercredi à Genève pour un premier dialogue. Plus de 3 heures de discussion, plutôt informelle selon la presse, sans déclaration commune devant les journalistes, mais des propos distillés des deux côtés pour saluer l'événement. Moscou a évoqué une discussion franche et directe et au lendemain de la rencontre, le Kremlin s'est réjoui du retour au bon sens des États-Unis. Washington, pour sa part, a décrit un dialogue aux tonalités positives. Des relations visiblement apaisées donc, mais très peu de résultats concrets pour l'instant, si ce n'est le retour des ambassadeurs dans leurs pays respectifs. Qu'attendent les États-Unis et la Russie l'un de l'autre? L'analyse de Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More.
Ce que les États-Unis voudraient, c'est essayer de stabiliser pas cette relation stratégique qui est particulièrement difficile. Du côté russe, il s'agit avant tout de se faire reconnaître comme superpuissance, d'afficher ce statut de superpuissance. Et le seul fait d'avoir obtenu ce sommet, qui n'était pas prévu il y a encore quelques mois, est considéré par la Russie comme une victoire diplomatique. Donc il y a véritablement une dissimulation. De part et d'autre, la Russie est très loin de ce que les États-Unis peuvent représenter en tant que puissance globale.
Sur quoi repose cette dissymétrie des objectifs diplomatiques ?
En fait, les États-Unis, comme l'ensemble des pays occidentaux, sont ce que l'on pourrait appeler des puissances conservatrices qui voudraient essayer de maintenir l'état des choses actuel, alors que la Russie, elle, se voit et agit comme un état perturbateur, une puissance révisionniste qui mise plutôt sur le désordre, l'instabilité, l'imprévisibilité pour essayer de renverser le rapport global des forces. Et donc c'est là où, si l'on a compris que cette opposition entre d'un côté puissance, état conservateur, et puis de l'autre côté puissance révisionniste, état perturbateur, on comprend pas qu'il est difficile là de parvenir justement à stabiliser cette relation stratégique, puisque ce n'est pas ce que les Russes veulent en fait.
Et depuis 1999, Vladimir Poutine a vu défiler 5 présidents américains. Est-ce que finalement la stratégie russe change selon le président américain en face de lui ?
Ah non, il a sa propre vision du monde, il se pose comme un rassembleur des terres russes, et la Russie veut récupérer tout ou partie de ce que l'on appelle aujourd'hui l'espace post-soviétique, et donc forcément au détriment des différents États souverains, indépendants, qui se sont constitués au moment où l'URSS s'est défaite. Alors c'est pas simplement des propos théoriques, ça n'est pas simplement une expectative, il suffit de considérer la Géorgie en 2008, et puis finalement la reprise de contrôle d'une partie du Caucase l'an dernier en instrumentalisant l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Il suffit de regarder l'Ukraine en 2014. Alors au-delà de cet activisme à l'intérieur de ce que la Russie considère être l'étranger proche, il y a bel et bien une volonté de projeter la puissance russe au Moyen-Orient, en Afrique. Ça n'est pas indexé sur la vie politique intérieure, électorale américaine et les différents présidents américains qui sont issus des scrutins aux États-Unis.
Dans ce contexte, le fait de vouloir obtenir une relation prévisible, comme le dit la Maison-Blanche, est-ce finalement une chimère ?
Oui, certainement, à mon sens, c'est une chimère. C'est-à-dire que du côté américain, il y a une superpuissance qui est en cours de formation qui les préoccupe à juste titre, c'est la Chine populaire. Et donc ce qu'ils voudraient, en fait, c'est essayer de calmer le jeu du côté russe et donc d'aménager cette rivalité pour pouvoir mieux concentrer leurs efforts sur la Chine. Mais il faut bien comprendre qu'il existe aujourd'hui une alliance de fait entre la Russie et la Chine. Il faut bien comprendre que la Russie et la Chine sont du même côté. Ce sont deux puissances qui ont le sentiment que le temps travaille pour eux, que l'heure a sonné du déclin de l'Occident. Ils sont très spengleriens et qu'il faut se concerter, coordonner ces opérations de façon à exploiter au mieux la situation.
Voilà, c'était l'analyse de Jean-Sylvestre Montgrenier sur les attentes et les relations des États-Unis et de la Russie au regard de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine qui a lieu mercredi à Genève. Interrogé par Marine Henriot, il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous à 13h et vous souhaite d'ici là une très belle matinée. Au revoir.